Fabrice de Pierrebourg revient de Kirkuk, la ville qui illustre le conflit entre les Kurdes et le pouvoir central irakien à Bagdad. Fabrice, bonjour.
Oui, Paul, bonjour.
Pourquoi vous êtes déplacé à Kirkuk?
Je vais reprendre une expression. Il y a un Kurde qui m'a dit finalement Kirkuk et sa région, c'est un peu le Jérusalem du Kurdistan. C'est une ville et une région pétrolière, et c'est surtout ça la clé du problème, qui est disputée depuis des années entre le gouvernement central de Bagdad et les Kurdes de la région autonome du Kurdistan. Alors les Kurdes ont pris le contrôle finalement et annexé Kirkuk à l'été 2014 lors d'une offensive contre le groupe armé État islamique qui s'en approchait dangereusement. Et les Kurdes, à ce moment-là, finalement, ont installé leur ligne de défense à l'extérieur de la ville et n'en ont pu bouger. Jusqu'en septembre dernier, où il y a eu un référendum, où les Kurdes ont voté massivement oui pour leur indépendance à 92%. Et devinez ce qui s'est passé, comme il se passe toujours en pareil cas. Le gouvernement central de Bagdad s'est mis en colère et deux semaines plus tard a lancé une offensive militaire pour déloger les Kurdes, les Peshmerga Kurdes, les forces kurdes de Kirkuk et de sa région pétrolière. Et les repousser finalement 50 kilomètres plus au nord en essayant de les remettre, si vous voulez, à l'intérieur de leurs frontières, de la région autonome. Ils ont même dans les combats ont duré plusieurs jours, ils ont même fait sauter un pont sur la route principale qui relie Erbil, donc au Kurdistan, à Kirkuk. Et au cours de cette offensive, finalement, les Kurdes ont perdu près de 50% de leur territoire. Alors les Irakiens, de fait, ont repris surtout le contrôle de cet immense champ pétrolier. On dit que c'est le deuxième plus gros d'Irak. Et ce qui leur assure maintenant un revenu important de ce pétrole, mais revenu qui ne va plus dans les poches du gouvernement kurde, ce qui a eu des conséquences immédiates pour l'économie. Il y a des fonctionnaires kurdes qui sont plus payés, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus assez d'argent, et ça a un impact finalement dans les commerces, ça a un impact sur l'état des routes, ça a un impact sur l'économie. Alors quand on se promène en ville de Kirkuk, on se rend compte qu'il y a deux solitudes. Hein. Il y a une grosse partie qui est kurde, une autre partie qui est arabe. Et finalement, du côté kurde, et c'est un peu logique, on dit que depuis que les Irakiens et son armée, ses forces antiterroristes ont repris le contrôle de la ville et de la région, à cet automne, c'est horrible, qu'il n'y a plus de sécurité, que la vie au quotidien est devenue vraiment difficile, qu'il y a du racket, etc. Mais côté arabe, évidemment, c'est logique. À l'inverse, on se dit très satisfait. Les Kurdes se plaignent de la hausse des vols, du racket, ce que je disais. Ils disent que finalement, le pouvoir d'achat a baissé, et que tout ça, c'est une histoire de pétrole. J'ai rencontré un journaliste d'une télé kurde qui dit lui-même avoir peur désormais d'aller du côté arabe. Il se dit désolé de l'état de sa ville qui est très sale. Il dit que c'est pas digne d'une ville pétrolière. C'est vraiment honteux. Donc, du côté arabe, on reconnaît quand même qu'il y a des difficultés économiques. Ils en payent le prix. Mais eux, ils disent que finalement, il y a un arabe qui m'a dit, vous savez, en Irak, la sécurité totale, ça n'existe pas. Dans les villes irakiennes. Il dit même la nuit, il n'y a pas un endroit où vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.
Fabrice, c'est assez ironique parce qu'on n'aurait probablement pas remporté de victoire totale sur le groupe État islamique sans les combattants, les Peshmerga kurdes. Ils ont joué un rôle capital. Et puis voilà que maintenant que la menace du groupe État islamique s'est un peu estompée, même fortement, les vieilles rivalités reviennent. Les Kurdes et les Turcs, les Kurdes et les Irakiens.
Oui, on a le même problème côté syrien d'ailleurs, hein, où les Kurdes de la coalition arabo-kurde sont en ce moment attaqués par les Turcs, et puis on voit que l'Occident ne bouge pas trop. Les fameux Kurdes d'Irak, ceux avec qui on était d'ailleurs il y a un an et demi, ils ont été entraînés, il faut le rappeler, par les forces spéciales canadiennes, et ils combattaient à l'époque aux côtés de la police irakienne, aux côtés de l'armée irakienne, qu'ils affrontent maintenant. Alors c'est assez particulier, mais devinez qui en profite, finalement c'est le groupe armé islamique et les djihadistes qui depuis quelques semaines multiplient les attaques autour de Kirkuk. Ils menacent la ville, il y a eu une attaque kamikaze il n'y a pas longtemps, et tout le monde a encore en mémoire là-bas une attaque menée par le groupe armé islamique il y a à peine un an et demi, où deux commandos ont pénétré la nuit dans la ville et ont pris position dans deux bâtiments gouvernementaux, et ça a pris deux jours pour les neutraliser. Alors maintenant, il y a des recrudescences d'attaques à l'extérieur de la ville qui sont attribuées non seulement au groupe État islamique, mais à d'autres groupes djihadistes. Puis il y a des groupes un peu mi-mafieux, mi-djihadistes, on ne sait pas trop. Et les rumeurs les plus folles courent du côté kurde de la ville. On craint vraiment une attaque majeure du groupe djihadiste. D'autres considèrent au contraire que l'État islamique est trop affaibli en ce moment. Et j'ai rencontré cet après-midi deux responsables de ce qu'on appelle la Golden Division. C'est l'unité de contre-terrorisme fédéral irakien. Ils ne sont pas militaires, ils ne sont pas policiers, ceux qui ont été en première ligne dans la terrible bataille de Mossoul. Et eux disent, attention, oui, c'est vrai, on a de plus en plus de problèmes à l'extérieur, et on va faire des opérations pour neutraliser ces groupes-là. Mais pour l'instant, le groupe armé État islamique, il y en a un qui m'a dit, est comme un loup blessé. Il va essayer de faire des dégâts avec le peu de force qui lui reste. Et c'est sûr, et ça c'est tout ce que tout le monde dit, leur seule solution, maintenant qu'ils ont perdu leur territoire, c'est la stratégie d'insurrection, de harcèlement de la population, des forces de sécurité, d'attaques suicides. Et ce que m'a dit un autre responsable, il me dit, n'oubliez jamais qu'ils n'aiment pas la vie, ils aiment mourir, et donc c'est pas difficile pour eux de lancer des attaques, même s'ils savent qu'elles seront perdues d'avance.
Fabrice, merci, et à demain jeudi.
Oui, bien sûr, Paul.
Au revoir.
Au revoir.